psaume d'aujourd'hui, le message va être sur le psaume 19. Tout l'évangile dans un psaume, c'est le titre. Et j'aimerais commencer par vous enseigner un petit chœur, un petit chant. Il y a un lien avec le psaume, vous allez voir. Alors, voilà, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur au Seigneur, mon rocher, ma vie. » Alors, je suis pas dans l'équipe de louanges, mais on va essayer en créant du rythme. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. On refait ça, vous comprenez? Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Le refrain. Ô Seigneur, ô Seigneur, mon rocher, ô Seigneur, ô Seigneur, ma vie. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Amen. Je vous invite à prier encore une fois. Jésus, tu es notre grand prêtre, celui qui a pourvu le sacrifice pour notre pardon. Et ta parole nous dit que si nous disons « nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si nous confessons nos péchés, toi qui es fidèle et juste, tu nous pardonneras nos péchés, nous purifier de toute injustice. Alors, prenons un moment de silence pour nous mettre devant Dieu et reconnaître nos péchés. Merci Seigneur qu'on peut venir à toi avec pleine assurance pour obtenir grâce, pardon, miséricorde. Nous sommes faillibles et pour ensuite nous relever pour cette purification, pour ce pardon, pour ensuite nous relever et marcher avec toi. Apprends-nous à vivre de cette manière, nous prions. Et guide-nous dans l'écoute de ta parole ce matin. Amen. Avez-vous déjà été en voiture dans un chemin de montagne? Oui. Durant l'été 2018, Cheryl et moi, on était sur l'île de Maui, dans le Pacifique, et on a pris une route en montagne assez pittoresque pour monter vers le village de Hana. Et dans un tel chemin, il faut monter lentement et être attentif parce que, en plus de l'étroitesse de la route, et des fois, c'est tellement étroit qu'il y a juste la place pour une voiture qui passe, alors c'est même risqué. Mais il y a des falaises, parfois des deux côtés de la route, et d'autres dangers, et surtout des tournants imprévisibles et parfois abrupts. La destination finale vaut la peine, elle est magnifique, mais pour s'y rendre, il faut tenir la route, il faut conduire attentivement et bien négocier les virages. Voici quelques images justement de ce voyage qu'on a fait et nous étions en voiture. Alors là, on commence, en plus il y a un panneau là qui dit « attention, il y a des roches qui tombent », juste pour baisser le stress un peu. Il y a des roches qui tombent et voyez-vous, alors, on ne voit pas très bien, mais il y a un tournant à pic et un petit pont et il y a juste une voiture qui peut passer à la fois. Il faut être très attentif pour ne pas rentrer dans la forêt. Voici d'autres, un autre virage dans l'autre direction avec une falaise. Et en fait, comme j'ai dit, c'est très beau et quand on voit quelque chose de beau, il y a parfois des espaces où on peut s'arrêter pour regarder les belles choses et être attentif ici, une chute d'eau. Mais après ça, il faut se remettre dans la voiture et repartir, car le but, c'est d'arriver à la destination. Alors, notre psaume de ce matin, il se lit comme un voyage en voiture dans la montagne. Il nous amène vers une belle destination finale. Et en chemin, on va voir des choses intrigantes et même belles qui vont attirer et mériter notre arrêt. Le thème du psaume 19, c'est comment Dieu se révèle à nous. Comment il se fait connaître à nous. Mais la destination finale du psaume, c'est que Dieu veut nous révéler à nous-mêmes. Il veut que tu te comprennes mieux comment, qui tu es devant lui. C'est vraiment intéressant. On apprend qui nous sommes en découvrant Dieu. Alors, comme j'ai dit, la manière que le psaume avance, il faut y aller lentement en faisant attention au tournant abrupt. Puis on va se poser des questions. Pourquoi le tournant ici? Est-ce qu'il y a un obstacle qu'il faut contourner? Est-ce que j'ai bâti... Lisons le psaume maintenant. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que j'ai bâti le suspense? OK. Alors, on y va. Alors, au chef de cœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour est en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leur discours jusqu'aux extrémités du monde, où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Oh! Non, ça, c'est pas bon, ça. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage le juste. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste. Toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel des rayons ou qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, par celui qui les respecte. La récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celle que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Amen. Ça, c'est le psaume 19. Un psaume qui est comme populaire et même le psaume préféré de certaines personnes. Mais comme j'ai dit, on est comme dans une voiture, on monte une montagne. Et notre route commence, comme on a vu, par une célébration de la révélation de Dieu à travers la nature. Et ça, on l'avait vu il y a 2 semaines aussi, dans un autre psaume, le psaume 8. On découvre Dieu, qui il est à travers la nature. Et ici, c'est surtout à travers le ciel. On parle du ciel de la nuit, qui parle à la nuit. On parle du ciel du jour qui parle au jour. C'est ce premier grand paragraphe des versets 2 à 7. Et dans cette partie, le psalmiste, qui est David, il voit des choses à admirer. Description du soleil. Et une chose qui m'a frappé, moi, et je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup frappé, c'est qu'il compare le soleil à un homme qui vient juste de se marier et puis qui sort de sa chambre nuptiale. La roupa, je ne sais pas s'il y en a qui en ont, j'ai déjà été dans un mariage juif, mais c'est le mot hébreu, la roupa, c'est la chambre nuptiale. Alors, là, il y a comme une question qu'on peut se poser, ça serait quoi la ressemblance entre une personne nouvellement mariée qui sort de sa chambre nuptiale et le soleil qui se lève le matin? Peut-être une question un peu gênante, mais c'est quand même... On a le droit de se poser la question. Eh bien, je me suis dit, bon, je me souviens de ces premiers jours de mon mariage. Il y a de la joie, on se sent bien et c'est comme un regain d'énergie. On se sent jeune et comme au summum de notre vie. Apparemment, pour David, le soleil qui se lève le matin, il lui fait penser à ça. Le soleil est plein de joie, il rayonne, il est plein d'énergie et c'est comme une source d'énergie qui sort de l'intérieur du soleil lui-même. Alors, voilà un peu l'être humain devant la nature, réfléchit, utilise son imagination pour essayer de comprendre d'où ça vient tout ça et peut-être de qui est-ce que ça vient. Et je parle de l'homme en général. On voit que la révélation de Dieu à travers la nature, elle est universelle. Donc, elle est accessible à tout le monde. Et même à la nature elle-même, on dit que le ciel de la nuit parle à la nuit. On dit que le ciel du jour parle au jour. La nature nous parle d'un créateur. On serait supposé le comprendre. Et on serait supposé comprendre et même nous réjouir du fait qu'il est puissant. Il est créatif et il crée des choses stables et fiables, hein, comme cette trajectoire du soleil qui est stable, toujours la même, et toujours pleine d'énergie, et ce qui nous permet d'avoir de la chaleur, et pas juste ça. On voit que l'être humain qui apprend à observer la nature utilise son imagination et sa réflexion. Mais il en arrive, ou elle, il ou elle en arrive, à des choses plutôt générales sur Dieu. En fait, le nom de Dieu qui est utilisé dans ce paragraphe, c'est « elle ». « Elle », c'est un nom un peu général pour parler de Dieu. On le voit même chez les Cananéens, que les Cananéens aussi, les gens qui n'étaient pas du peuple d'Israël, avaient un concept d'un créateur. Alors, eux, ils avaient ajouté d'autres dieux, les Baals et plusieurs autres, mais ils avaient l'idée d'un créateur suprême qu'ils appelaient El. Et ce nom de Dieu est utilisé également dans les Écritures d'Israël, ici aussi. C'est le Dieu, un des noms, on va dire générique, général. La nature nous invite à l'imagination, mais pas clairement à la relation avec Dieu. Alors là, tout d'un coup, on arrive à un tournant abrupt dans la route. C'est le verset 8. Tournant à droite, changement de sujet. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Célébration de la loi, vos portraits ici. les versets 8 à 12, on entre dans une célébration de la loi de Dieu et les différents synonymes, la loi, les décrets, les jugements, même la crainte, ce sont des synonymes qui parlent de la Bible au complet, en fait. La parole de Dieu. La Bible est une autre révélation extraordinaire de Dieu. Je vous pose la question, pourquoi ce tournant abrupt dans la route? Est-ce que c'est comme pour rien? Le psalmiste saute d'un sujet à un autre? Ou est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi ce tournant? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous avez le droit de vous risquer. Pardon? Peut-être qu'on n'est pas sur la bonne route, et donc, c'est peut-être ça, oui. Éviter un abîme, intéressant. On doit tourner, et là, il y a quelque chose, un pont, peut-être, pour éviter un abîme, c'est la loi de Dieu. Dans ce chemin en montagne, il y a peut-être exactement un obstacle à éviter. Et en fait, cet obstacle, c'est notre cœur obscurci. Le cœur de l'être humain est porté vers l'adoration de Dieu d'un côté, mais il y a un problème, une propension à l'erreur. À cause de notre cœur indépendant par rapport à Dieu, certains passages bibliques vont dire que notre cœur est rebelle face à Dieu. Et donc, même devant la nature, qui devrait nous amener à voir le Créateur derrière, malheureusement, la plupart du temps, on tombe, nous les humains, dans l'idolâtrie. C'est ce qui est arrivé aux peuples qui n'ont pas la parole de Dieu en général, et même ceux qui l'ont. L'idolâtrie plutôt que la reconnaissance du vrai Dieu. L'homme laissé à sa réflexion et à son imagination va immanquablement s'égarer. C'est quand même triste. L'Épître aux Romains dit ceci concernant les êtres humains qui interprètent la création. Ça dit « tout en connaissant Dieu ». Les humains ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent des choses créées. L'idolâtrie. Ah, c'est très intéressant. Nous étions quelques-uns d'entre nous à l'exposition en 3D de Khéops, là où il y a les pyramides d'Égypte. Merci à Mélodie qui a organisé ça. Et voilà un peuple, une civilisation très avancée, les Égyptiens, qui connaissaient bien la nature. Et voilà, dans ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait un chat qui était une divinité qui était vénérée, et il y en avait beaucoup d'autres. Et on sait que le soleil est une divinité importante pour les Égyptiens. Les Hébreux, eux, comprenaient parce que Dieu leur a donné sa loi. Il ne faut pas adorer le soleil. Il faut remercier Dieu pour le soleil. Vous voyez la grosse différence? Il ne faut pas adorer le soleil. Il faut remercier Dieu pour le soleil parce que le soleil, c'est juste une création de Dieu. Jean Calvin le dit comme ceci. Dieu, prévoyant l'inefficacité de sa révélation dans la merveilleuse structure du monde, a donné le secours de sa parole, la Bible, à ceux qu'il a voulu instruire avec profit. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. La Bible, c'est un cadeau de Dieu pour toi. C'est le chemin que nous devons suivre si nous voulons nous désirons sincèrement le connaître. Il est certain que l'éclat de la gloire de Dieu sera pour nous un labyrinthe où nous nous égarerons si nous ne tenons pas le fil conducteur de la parole. Intéressant, intéressant. On est tellement content de la nature comme livre écrit par Dieu. On a besoin du deuxième livre qui est la Bible. La Bible ne contredit pas la nature, mais dans un sens important, la Bible est supérieure à la nature. Elle contient les qualités personnelles de Dieu lui-même. Elle n'est pas Dieu, mais elle reflète, comme nous dit le psaume ici, le fait que Dieu est pur, qu'il est vrai, et elle aussi est vraie. Il est droit, et elle aussi est droite, juste, sage, comme toi tu es, Seigneur. Merci pour ta parole. Et elle agit de manière personnelle sur nous, répondant à nos besoins profonds. Elle nous restaure, elle nous instruit, elle nous rend confiants, elle nous communique ton amour. Voilà pourquoi David la célèbre comme un trésor pour le cœur, plus délicieux que le miel, plus précieux que l'or. Et elle crée la relation personnelle entre moi et toi, ô Dieu. C'est pour ça que c'est dans cette partie-là du chemin, c'est sur ce pont-là que, pour la première fois, on voit le psalmiste utiliser le nom révélé de Dieu, Yahvé. Ça, c'est traduit l'Éternel en français, mais en hébreu, Yahvé. On commence à voir une figure un peu plus précise de qui est ce Dieu éternel, une liste de ses perfections. Et le psalmiste même commence à se forger une identité. Il s'appelle ton serviteur. Ton serviteur. Et ça, ça a beaucoup d'implications. Il y a une relation. Yahvé, c'est mon maître qui m'enseigne et qui me donne même des commandements. Et moi, je suis ton serviteur éternel. J'écoute, j'ai confiance, j'obéis. Mais là, il y a un autre tournant dans la route qui arrive au verset 13. Là, maintenant, c'est à gauche. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Alors, pourquoi cette nouvelle question? Je veux dire, on a déjà la nature, en plus, la Bible. Pourquoi cette question? Pardonne mes fautes que j'ignore. Il me semble que si on a la Bible qui nous rend sage, il faut se poser la question. Pourquoi cette question? Je ne sais pas si quelqu'un a une chose à dire, un partage, mais pas un partage, mais peut-être un élément de réponse. Voilà, oui, je pense que quand il pense que le psalmiste n'a pas dit, quand il célèbre la perfection de la parole de Dieu juste avant, mais il en vient à cela. Un des messages de la Bible, c'est qu'il nous discerne, nous fait voir que nous sommes pécheurs. Et je dirais même qu'il y a quelque chose de désolant pour le chrétien quand il regarde un autre chrétien, puis pour un autre chrétien qui me regarde moi en tant que chrétien, c'est qu'on voit souvent qu'une chrétienne ou un chrétien croit qu'il a vraiment, il est rendu à la perfection ou qu'il est, il est vraiment bien devant Dieu parce qu'il a la Bible. Et ça, c'est une erreur. La Bible nous amène à reconnaître que nous sommes pécheurs, comme Hector vient de le dire. Et ça, c'est le chemin du serviteur de Dieu, c'est d'être face à nos torts, parce qu'on est pardonné et parce que Dieu nous transforme. Voici ce que l'apôtre Paul dans Romains encore dit à l'erreur que les gens commettent, même avec la Bible dans la main. Toi qui te donnes le nom de juif, et ça, ce n'est pas une affaire raciale, là. Ça parle des gens qui ont la Bible. Ça pourrait s'appliquer à moi aujourd'hui ou à toi, dépendamment de mon attitude. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi de Dieu et tu places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas connaître l'adultère, tu commets l'adultère. Et il continue la liste. Et donc, il va faire une longue liste et ça ne veut pas dire que tous les Juifs commettent tous ces péchés, mais c'est plutôt personne qui obéit au commandement de Dieu, qui connaît la Bible, a un comportement parfait qui fait qu'il n'aura pas besoin de pardon. Il n'y a personne d'entre nous qui devient irréprochable par sa justice propre, sa capacité propre d'obéir. Et ça, David le reconnaît en lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 13, « Qui est capable de discerner ses erreurs? Oh, pardonne-moi, Seigneur. » L'orgueil qui est mentionné par David ici dans ce psaume, ça c'est un problème grave. Mais il est à la porte de tous les humains. Se réjouir d'avoir la parole de Dieu, si c'est par orgueil, ça peut nous mener dans un faux chemin. Et l'orgueil religieux a pris contrôle d'Israël, hélas. Il y avait seulement un faible reste de Paul, selon lui, selon ce qu'il voyait, un faible reste qui comprenait cette humilité devant Dieu, ce besoin d'une rédemption. Hélas, l'orgueil religieux frappe beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Préserve ton serviteur du sentiment d'orgueil, verset 14. Préserve ta servante, Seigneur, du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Voyez-vous que quand on n'a pas la Bible, le danger, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est, on va dire, le mauvais virage à gauche ou à droite. Dans l'autre direction, l'orgueil peut prendre contrôle de mon cœur et je lis la Bible avec une idée, bien, je vais juste obéir au commandement, puis je vais être correct. Et voilà une erreur qui est peut-être pire, ce légalisme où on se pète les bretelles et on dit finalement, je suis capable par moi-même. Préserve ton serviteur du sentiment d'orgueil. Jésus avait dit aussi quelque chose qui va dans la même direction. Jésus a dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » Et il parlait à des gens religieux pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Comment décoder cela? Jésus nous aide. pour comprendre. Ce que Jésus veut de toi, c'est que tu reconnaisses devant lui que, à cause du péché en toi, finalement tu es aveugle et tu as besoin de sa lumière. C'est par grâce que sa lumière vient en toi pour comprendre ce que la Bible essaie vraiment de te dire, ou plutôt ce que Dieu veut te dire par la Bible. C'est par grâce, c'est par l'action de Dieu. Donc, on est près du sommet de la montagne. Et David, ici, entre dans une compréhension plus profonde. C'est cette bonne nouvelle que tu peux être sauvé par grâce, à travers la foi. Déjà, c'est présent dans la Torah. L'Évangile, qui va devenir beaucoup plus clair et explicite en Jésus, est déjà présente. C'est comme un lever du soleil dans l'Ancien Testament. La lumière commence à poindre. Alors là, on arrive à la fin du psaume, on arrive au sommet. Et c'est là qu'on voit, là ça commence à s'aplatir, et le psalmiste fait la prière suivante. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes, ou toi, mon rédempteur, fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Je vous pose une autre question. Après tout ce parcours, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'attitude dans cette prière, l'attitude de la personne qui prie ici, qui vous frappe? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui te frappe?
Humilité.
Il y a une humilité, oui. Oui, le dernier mot, c'est quand même intriguant et frappant. Mon rédempteur. Il n'a pas été question de rédemption dans le psaume du tout, du tout. Alors, ce mot à la fin, rédempteur, Goël, c'est assez frappant, oui. Et ça nous fait penser à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ à la croix. On voit dans cette expérience du sommet, le psalmiste, l'enfant de Dieu, qui est à l'aise et prend plaisir à louer son Dieu, à le prier. On a vu qu'il est un peu théologien, donc il réfléchit, il considère toutes les données qui viennent de l'intérieur et aussi de l'extérieur, il essaie de comprendre le vrai sens de la parole, et ça débouche sur la prière et sur la louange. Mais on voit son humilité. On voit, finalement, il rejette l'orgueil, il rejette l'hypocrisie, il se met à nu devant Dieu. Il a confiance que Dieu va recevoir sa prière avec grâce, même si elle n'est pas parfaite. Fais bon accueil à mes paroles. Hein? J'aime ça parce que c'est comme, ma prière n'est probablement pas parfaite. Il y a peut-être des erreurs théologiques dedans. Et ma compréhension va s'améliorer avec le temps. Accueille ma prière d'aujourd'hui, Seigneur. Moi, j'aime ça. Et puis, de reconnaître que notre Dieu, c'est non seulement notre maître, mais aussi notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés à grand prix, celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné celui qu'il a aimé infiniment, Jésus son Fils, pour mourir pour nous. Alors, peut-être on peut terminer en disant, demandons à Dieu de faire de nous de tels adorateurs, de tels prieurs, d'accord? Amen. On va rechanter le dernier verset. Vous voyez mon truc? Je vous avais amené en haut de la montagne au début. On va rechanter et prier ensemble, et après, j'inviterai l'équipe de louanges à venir. OK, donc là, il faut... Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Encore. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Ô Seigneur, mon rocher, ô Seigneur, ô Seigneur, ma vie. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Seigneur. Oh oui, Seigneur, reçois favorablement nos prières de cette semaine. Moi, je te prie de nous donner un cœur joyeux de repentance. Seigneur, on n'a pas pris le trésor de la nature suffisamment au sérieux. Et cet été, donne-moi, donne à chaque personne un cœur de remerciement pour les belles choses autour de lui. Je me repens, Seigneur, que je néglige ta parole. Peut-être il y a un groupe maison qui est proche de chez moi, qui rentre dans mon horaire, et je me suis laissé vraiment trop préoccupé, possiblement par quelque chose de moins important. Seigneur, si j'ai mal choisi, donne-moi de le voir, rends-moi sage, rends-moi repentante, repentant, pour aller étudier ta parole avec mes sœurs, mes frères. Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil. J'ai peut-être jugé quelqu'un aujourd'hui, alors que toi, tu vois que je fais pareil. Je fais la même erreur que l'autre personne, mais je ne le vois pas en ce moment. Père, libère-moi de l'orgueil qui me mène dans une fausse religion. Pardonne-moi aussi, Seigneur, peut-être qu'il y a des choses créées qui sont en train de devenir pour moi des dieux. Peut-être que l'argent devient mon dieu. Peut-être que l'éducation de mes enfants est devenue une priorité plus grande que toi. Peut-être que la beauté de ma maison, peut-être que même mon statut d'immigration devient plus important que toi. Ô Père, donne-nous de nous repentir pour mettre l'Éternel d'abord dans mon cœur et tout ce qui est créé comme étant des choses pour lesquelles je te remercie et que tu vas me donner au bon moment. Père, en cet été qui commence, donne-nous un cœur humble et repentant pour devenir ces adorateurs que nous voulons devenir comme David. David, qui était humble, mais qui te chantait tout le temps, qui t'adorait, qui te remerciait, qui venait à toi avec ses problèmes, mais toujours qui finissait avec cette parole, Père, tu es mon Dieu et je me confie en toi. Ô Père, nous prions toutes ces choses au nom de Christ, celui qui nous a sauvés, notre Rédempteur. Amen.